VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise au Soudan du Sud, les représentants des ex-rebelles et du gouvernement se sont rencontrés pour la première fois aujourd'hui à Djouba, la capitale, en vue de mettre en application l'accord de paix conclu en août. C'est ce qu'annonce la médiation est-africaine. La délégation rebelle est sur place depuis hier pour préparer le retour le mois prochain du chef rebelle Riek Machar en application de l'accord de paix. Les précisions de Timothée de Langmaille.
L'accord signé par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival et ancien vice-président Riek Machar prévoit un cessez-le-feu, la démilitarisation de Djouba, la capitale, l'intégration des forces armées et de la police, de même que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les deux camps se sont mutuellement accusés de violer la dernière trêve comme les précédentes. « Notre arrivée à Djouba constitue la fin de cette guerre », a déclaré le principal négociateur rebelle, Tabang Deng, ajoutant que l'arrivée du chef rebelle Riek Machar dans la capitale interviendra en janvier. Quelques 600 dirigeants rebelles sont attendus à Djouba ce mois-ci. Le porte-parole rebelle James Gaddet, que cite l'agence Associated Press, a indiqué de son côté que la mise en place du gouvernement d'union nationale interviendra d'ici le 22 janvier. Le conflit sud-soudanais, qui a éclaté à la mi-décembre 2013, a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés et de réfugiés.
À Djibouti, des militants de l'opposition affirment que 19 personnes ont été abattues lundi par les forces de sécurité lors d'un rassemblement religieux dans la capitale. Mais le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, lui, fait état aujourd'hui d'au moins 7 civils tués et 23 blessés dans des affrontements avec la police, qui compte aussi 50 blessés dans ses rangs. Plus de détails avec Michel Joseph.
Des témoins rapportent que les forces de l'ordre sont intervenues vers 5 heures du matin et ont tiré à balles réelles sur une foule commémorant un leader religieux. Dans un communiqué, le ministre djiboutien de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, affirme de son côté que plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de lancer une offensive contre les forces de l'ordre. Selon le même communiqué, la violence de lundi a été orchestrée par des individus mal intentionnés recevant des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger. Des accusations que refute le chef adjoint de l'opposition, Elmi Khair, qui a dit que les personnes prises pour cible participaient à une cérémonie religieuse. Des opposants étaient présents dans la foule, y compris le chef de l'opposition, Ahmed Youssouf, qui a été blessé, a expliqué Elmi Khair.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, la justice militaire a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. Le président déchu vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa fuite du pays en octobre 2014. Toujours concernant le dossier Sankara, les tests d'ADN n'ont pas été concluants selon les résultats présentés hier à la justice militaire. Julien Laloco est l'un des avocats de la famille Sankara.
Je dois rappeler qu'avant le test ADN, il y avait déjà eu les rapports donc balistiques et déjà donc sur la base de ces éléments, effectivement, nous avions des indices qui nous permettaient de croire que les tombes donc sont supposées en tout cas contenir les restes des victimes. Mais le rapport ADN devrait venir vraiment conforter cette thèse. Les familles des victimes ont la possibilité de demander des contre-expertises avec d'autres laboratoires. Ça, c'est leur liberté.
Est-ce que la présence du général Gilbert Djendjéré ce lundi matin au tribunal militaire était lié à la publication des résultats de ces tests ADN?
Oui, absolument. Et n'oubliez pas que le général Gilbert Djendjéré également a été inculpé donc dans ce dossier. Et en la matière, la législation burkinabè veut que lorsque l'on déballe effectivement de tels résultats, les résultats d'expertise, que toutes les parties donc soient conviées, autant les parties civiles doivent être là, autant effectivement ceux qui sont mis en cause doivent être là.
Julien Laloco, l'un des avocats de la famille Sankara, était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, l'opposition politique ne se sent pas concernée par le fichier électoral remis lundi après-midi à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour organiser les élections générales de 2016. Les opposants ont exigé en vain un audit indépendant international de ce fichier. Avant sa remise, Moussa Idé du MNSD Nassara, principal parti d'opposition, au micro de notre correspondant Aniamé Abdoulrazak Idrissa.
Vous avez vous-même vu celui qui a dirigé les travaux, c'est un ministre sans portefeuille. Le Premier ministre, sachant qu'il n'y a pas de réalité dedans, il a fait exprès de ne pas venir.
Pourquoi vous n'avez pas assisté à la remise de ce fichier? Parce que c'est avec lui qu'on va aller aux élections.
Oui, mais parce que tout simplement, il n'y a pas eu de consensus. Les textes ont prévu un consensus. Les textes n'ont pas prévu, voilà une majorité, une minorité. Et le fichier, nous avons constaté, a été remis. Dans tous les cas, nous allons aux élections où il n'y a pas d'élection. C'est clair.
Vous ne vous reconnaissez pas à travers ce fichier?
Mais le fichier est faux. On a demandé d'auditer le fichier n'a pas été audité. Est-ce que quelqu'un qui vend des consommables peut auditer un fichier? Nous avons demandé que l'OIF soit là pour auditer ce fichier-là. Le pouvoir a mordicus refusé.
Moussa Idé du MNSD Nassara, principale formation d'opposition. Mais le parti au pouvoir n'a pas l'intention de faire marche arrière. Massoudou Assoumi, ministre nigérien de l'Intérieur et secrétaire général du parti au pouvoir.
C'est le fichier le plus propre, le plus inclusif, le fichier le plus transparent qui a été confectionné dans ce pays-là. Donc il faut arrêter de nous amuser. Ce fichier est terminé. Les cartes d'électeurs seront éditées et distribuées et nous irons aux élections. Maintenant, celui qui ne veut pas aller aux élections, c'est son affaire. Nous n'allons pas continuer à faire du ping-pong avec ces gens-là. Donc ces questions-là, pour nous, c'est réglé, elles sont derrière nous. Hein. Maintenant, ils peuvent continuer. Nous avons fait assez de consultations. Ce fichier est le plus consensuel possible qui ait eu lieu dans notre pays. Jamais il n'y a eu un fichier aussi consensuel. Jamais il n'y a eu un processus aussi inclusif.
Massoudou Assoumi, ministre nigérien de l'Intérieur.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise burundaise maintenant, la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, vendredi soir à Addis Abeba, d'autoriser le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, Maprobu, pour une période initiale de 6 mois renouvelable, est une meilleure perspective pour la paix dans ce pays. C'est l'analyse du journaliste, écrivain, spécialiste des Grands Lacs, Jean-François Dupaquier, au micro d'Éric Manirakiza.
Il est clair que les autorités du Burundi d'aujourd'hui refusent cette hypothèse de voir leur pouvoir contrôlé et leurs erreurs amendées ou corrigées. La perspective de déployer 5000 hommes au Burundi nous rappelle quelque chose. C'était la configuration prévue au Rwanda en 1993 par l'Organisation des Nations Unies pour une force apte à empêcher le pire, même si le génocide paraissait, disons, moins prégnant qu'aujourd'hui au Burundi. C'est une très bonne perspective, c'est une très bonne configuration, il reste maintenant à l'appliquer.
L'appliquer comment ?
Eh bien, il faudra visiblement transgresser la volonté du président Pierre Nkurunziza et de ses proches, puisqu'ils ne veulent pas que le vase clos qu'ils sont en train d'organiser et qui semble conduire le pays à l'horreur soit interrompu par une autorité internationale.
Est-ce que la communauté internationale tarde à agir sur la question burundaise ?
Il est évident que confier à l'Union africaine la responsabilité d'intervenir au Burundi est une très bonne décision. Toute autre décision paraîtrait à la fois étrangère au continent et inopportune et sans doute impossible à mettre en œuvre par manque de volonté politique d'États européens de faire partie de la recomposition politique au Burundi. C'était vraiment la meilleure idée qui soit apparue sur la scène diplomatique de tous ces derniers mois.
Comment vous analysez le comportement de l'East African Community ?
Visiblement, tout le monde est conscient des enjeux. Les pays voisins sont terriblement inquiets de l'évolution du Burundi depuis la décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La société burundaise attendait la fin du deuxième mandat pour voir Nkurunziza quitter la scène, car il avait déçu profondément les Burundais par son incapacité à gérer le pays, au contraire par sa propension à développer la corruption, le népotisme, l'ethnisme, la violence. Il est clair qu'il faut qu'il s'en aille. Et la question maintenant est de savoir comment la communauté est-africaine va réussir à l'amener à quitter le pouvoir.
Le journaliste Jean-François Dupac, qui est joint en France par Éric Manirakiza. Et pour terminer, l'actualité hors d'Afrique, les prochaines discussions sur la Syrie qui doivent se tenir sous l'égide de l'ONU début 2016 auront lieu à Genève. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole de l'ONU. Les grandes puissances veulent essayer d'aller vite avec l'objectif de lancer les discussions début janvier 2016. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.